Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. C'est tenu du 10 au 13 octobre dernier à l'UTC Centre Pierre Guillaumat et à l'ESCOM de Compiègne, la fête de la science. Au programme, différentes conférences et ateliers sur les thématiques très variées.
Calista, coordinatrice en chef de la fête de la science.
Et Axel, coordinateur.
La fête de la science, l'idée, c'est de promouvoir la science au grand public, tout simplement.
C'est ça, en fait. L'idée, c'est de faire venir différents exposants de plein de milieux scientifiques différents pour qu'ils fassent de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'ils présentent des petites expériences de manière ludique pour que ce soit accessible à tout le monde, tous les âges, et que chacun puisse découvrir la science sous un nouveau jour.
Quelles étaient les thématiques de cette année, de cette édition 2019 ?
Alors, c'était très très vaste. Il y avait un événement dans l'événement, si on peut dire, les 80 ans du CNRS qui sont au sein de les laboratoires au sein de l'UTC. Il y avait aussi également une partie très très axée sur le son, donc il y avait comment la guitare fonctionne, les silencieux et des conférences également sur le son et le design sonore. On a eu aussi une partie sur tout ce qui est robotique avec les robots et les associations aussi étudiantes qui présentaient leur fonctionnement, UT Space, UTCIA.
Comme tous les ans, ça se passe en deux temps. Le jeudi vendredi, c'est réservé aux scolaires, c'est ça ?
C'est exactement ça. On est ouvert jeudi après-midi et vendredi toute la journée. Il y a beaucoup d'écoles, de la maternelle jusqu'au lycée, qui viennent nous voir. Et on leur fait des visites guidées des stands qu'ils veulent voir. Et le week-end, c'est plus ouvert au grand public. On est en visite libre, il y a toujours des guides si les gens ont besoin d'informations. Mais sinon, les gens peuvent se promener et découvrir les ateliers comme ils le souhaitent.
Et présent à cette fête de la science, un énorme tableau périodique des éléments chimiques. Apparemment, vous avez collaboré à la réalisation de celui-ci.
Oui, c'est une idée de scénographie à la base. C'était pour décorer. L'idée, c'était à la fois d'habiller le lieu et de faire en sorte que les gens apprennent des choses. Donc on a créé un énorme tableau en bois de 4 mètres sur 2, je crois, avec une case par élément chimique, avec dedans une petite anecdote sur l'élément et un objet pour illustrer. Et ça a été entièrement fabriqué par l'équipe coordinatrice de la fête de la science. On le fabrique depuis juillet dernier. Ça nous a pris à peu près un mois de conception et un mois de réalisation.
L'idée, elle est venue comment, de réaliser ce tableau ?
Alors, c'était en juillet, on travaillait, on était deux membres de l'ancienne équipe coordinatrice de l'année dernière et deux membres de la nouvelle équipe. Et on voulait juste, à la base, travailler autour des éléments chimiques. Comme le thème de cette année, c'était raconter la science, imaginer l'avenir. On cherchait des moyens de raconter la genèse de la science, c'est-à-dire les éléments. Et on s'est dit que réaliser un tableau, ça pourrait être plutôt bien. Donc à la base, on voulait faire juste des feuilles sur un mur et on s'est dit qu'au fait, si on faisait un système de cases, ce serait vachement plus ludique. Si c'était en bois, ce serait plus solide et réutilisable. Donc on a commencé à partir sur cette idée et on a trouvé les moyens techniques pour le réaliser.
Au niveau de la fréquentation pour ce week-end, c'est une réussite ?
Je pense qu'on peut dire que c'est une réussite. Où on a eu hier à peu près 800 personnes, il me semble. Et aujourd'hui, on est plus aux alentours de 600 à 700 personnes. Donc c'est quand même assez important, forcément par rapport au nombre de scolaires qu'on a eu. Rien que sur vendredi, la journée, on a eu 2000 scolaires qui sont venus. Mais c'est quand même pas mal au niveau du week-end, puisque comme ça, c'est beaucoup plus fluide. Les gens peuvent s'arrêter un peu sur les stands qu'ils préfèrent et voir les présentations dans leur ensemble sans être pressés par le temps, puisque les scolaires, c'est un peu la contrainte qui leur est imposé de retour à l'école assez tôt.
Je suppose que c'est des mois de préparation ?
C'est ça. Il y a pas mal de préparation en amont, donc à partir de juin, juillet, pour commencer déjà, voilà, surtout la scénographie, la réflexion de la scénographie. Bien sûr, en amont, l'équipe précédente, au mois d'avril, mars, commence à contacter les écoles qui sont déjà venues, les stands, pour savoir à peu près comment ça va se passer. Mais c'est surtout, voilà, mois de juillet, août, qu'on va vraiment finaliser tous les stands, le plan d'implantation, savoir qui va être présent, quel jour, parce qu'il y a aussi des stands qui ne sont pas disponibles le week-end, etc. Forcément, il y a l'ESCOM qui est ouverte cette année, cette édition, uniquement le week-end. Donc il fallait aussi trouver un autre moyen d'avoir un peu plus de place que 2000 étudiants que dans les bâtiments Pierre Guillaumat, c'est compliqué. Donc on a ouvert cette année pour la première fois le centre d'innovation où on avait la halle numérique avec les tables tactiles et également un escape game qui était organisé au deuxième étage. Ça a permis un peu de libérer de la place pour les gens qui étaient au centre Pierre Guillaumat. Merci.
Merci.
Edouard Dantaloukan, enseignant-chercheur à l'UTC.
Alors vous avez proposé ce week-end à la fête de la science un atelier qui s'appelle « Les ruines de Champlieu ».
Oui, effectivement. Donc, il s'agit de la reconstitution en 3D, donc modélisation 3D de l'ancien temple de Chanlieu. Quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, si vous allez vous rendre sur le site, vous allez voir juste un bout de terre. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux visiteurs un modèle 3D qui sera disponible à terme en réalité augmentée. Et donc, c'est un projet qui a été demandé par le conseil départemental des jeunes et qui est... permet à travailler ensemble à des collégiens, des lycéens et des étudiants de l'UTC. Voilà, chacun fait un petit bout du projet.
Concrètement, dans l'atelier, vous proposez quoi ? Une visite virtuelle, c'est ça ?
Oui, on propose une visite virtuelle à travers un logiciel. Voilà. Mais à terme, donc ça sera disponible sur le site en réalité augmentée. Donc avec un téléphone portable, on pourra voir la modélisation 3D du temple. Et donc, dans l'atelier, on explique un petit peu comment les étudiants ils ont travaillé, quel était le but et l'objectif de projet. Et après, ils ont la possibilité de faire une visite virtuelle dans un logiciel, comme dans un jeu vidéo.
Et il ressemble à quoi ce temple, en fait ?
Disons que nous, on a assuré un petit peu le côté technique. Donc, tout ce qui a été validation historique, donc ça a été fait par les archéologues donc, du service départemental de l'Oise. Les étudiants, ils ont consulté aussi des ouvrages qui ont été faits sur le sujet. Il y a quelques fouilles qui ont été faites. Donc, il y en a des vestiges qu'on peut retrouvé au musée Vivenel, qu'on a scanné, numérisé, et avec ça, donc, on a travaillé aussi avec des typologies de temples qui pouvaient exister à ce moment-là. Et donc, voilà, on propose un modèle, on espère, assez pertinent. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'hypothèses.
Si les auditeurs sont intéressés, ils se rendent sur le site de Chanlieu pour en savoir un petit peu plus ?
Oui, il y en a qui vont retourner. On a déjà beaucoup de visiteurs qui connaissaient déjà le site, qui l'ont déjà visité avant. Et oui, ça leur donne envie de retourner et regarder avec un autre regard ce qui se passe sur le site.
On rappelle que Chanlieu, c'est en accès libre. C'est à quelques kilomètres de Orouy et de Béthisy-Saint-Martin.
C'est ça. Merci, moi aussi.
Parmi les différents ateliers, un s'appelait Picasoft et le chaton libère Internet. Je suis avec l'un des concepteurs du site Picasoft.
Bonjour. Kian Pichou.
Alors, est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs ce site, s'il vous plaît ?
Alors, Picasoft, c'est une association essentiellement étudiante de l'UTC, donc à Compiègne, même si on a du personnel aussi, qui est des enseignants qui sont avec nous. Et notre activité, c'est, au sens large, d'œuvrer à militer autour d'une informatique libre. Donc, ça veut dire faire de la sensibilisation, par exemple, pour donner des alternatives aux grandes plateformes qui peuvent exister actuellement en ligne. Donc, on pense souvent à Google, à Facebook, mais il y a aussi des moins connus, mais qui ne sont pas dans les GAFAM, mais comme Instagram, Snapchat, etc., qui sont beaucoup utilisés par des jeunes. Donc, il y a plusieurs problématiques qui sont posées par ces plateformes. Donc, on fait de la sensibilisation pour donner des alternatives. Et on propose aussi des services alternatifs nous-mêmes pour essayer de se sortir de ces plateformes. Et on fait aussi de la formation en interne de l'UTC. On forme les ingénieurs de demain à apprendre à avoir une approche éthique de leur production en informatique.
D'où est venue l'idée de construire ce site ?
Alors, il y a une association qui s'appelle Framasoft, qui existe depuis de longues années. Je ne vais pas m'aventurer en disant une bêtise, mais ça fait un bon moment qu'ils existent. Et eux, c'était des militants vraiment autour du logiciel libre, des enseignants à la base. Ils essayaient de trouver des alternatives à des logiciels qui étaient payants dans le cadre de l'enseignement. Mm-hmm. Et ils essayaient de donner des alternatives libres. Et donc, ces personnes-là, donc de l'association Framasoft, ont lancé, 2014 peut-être ou 2015, je ne veux pas dire de bêtises, donc on va dire les deux, ils ont lancé une campagne qui s'appelait Dégooglisons Internet, qui œuvrait à proposer des alternatives vraiment à plein de services en ligne, donc ce qu'on est en train de faire nous. Et un ou deux ans après, ils ont lancé un collectif qui est Les Chatons, donc le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc ils ont un peu carburé pour que ça fasse l'acronyme Chatons. Et l'idée, c'était d'essaimer en fait ce qu'ils faisaient un peu partout, dans des associations, mais aussi dans des petites entreprises, pour essayer de passer le flambeau, pour pas qu'eux, ils deviennent aussi une grosse asso qui se contente de faire plein de choses et qui redeviennent même si c'est un peu exagéré, mais un autre géant du net. Et donc on s'est monté comme ça parce qu'il y avait cette démarche de créer des nouveaux Framasoft, entre guillemets, donc des associations qui feraient la même chose. Et il y avait un contexte étudiant enseignant qui le permettait bien à l'UTC parce qu'il y avait déjà des gens sensibles à ces sujets, et avec la volonté de faire ça. Et donc c'est comme ça qu'on a démarré.
Qu'est-ce que vous avez proposé comme atelier ce week-end à la Fête de la Science ?
Alors, ce week-end, avec les familles, on va dire le grand public, on a surtout fait des discussions en direct sur notre stand. Généralement, on les questionne sur leur usage du numérique. On essaie de leur proposer des alternatives aux choses qu'ils peuvent utiliser. Quand c'est des familles, on propose aussi des petits conseils sur ce qu'on appelle l'hygiène numérique pour les enfants. Et les jeudis, vendredis, où on accueillait essentiellement des classes avec des élèves, là, on faisait vraiment des ateliers. On avait une présentation rapide de l'association. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait donc par groupe sur des ordinateurs et on les faisait utiliser des alternatives à des outils qu'ils peuvent utiliser déjà au quotidien, chez eux ou à l'école, pour leur montrer que ils vont obtenir les mêmes résultats, mais que ça va répondre à certaines problématiques qu'on aura présentées juste avant dans la présentation.
Quelles alternatives vous proposez ?
Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a les alternatives que nous, on héberge et qu'on propose en accès libre. On en a deux actuellement. Il y en a un, c'est un service dit de PAD. C'est de l'écriture collaborative. Pour les personnes qui connaissent Google Docs, c'est la même chose. Mais c'est accessible publiquement sur l'adresse pad.picassoft.net. Vous pouvez créer le vôtre et puis travailler. Nous, on l'utilise quotidiennement pour nos réunions. Donc on montre ça généralement aux enfants aussi, on leur fait faire des petits jeux sur ça leur montre en plus ce que c'est que l'écriture collaborative, c'est intéressant. Deuxième outil qu'on propose, c'est sur team.picassoft.net. C'est une alternative, pour les gens qui connaissent, c'est une alternative à Slack. C'est un logiciel qui s'appelle Mattermost et en gros c'est un outil de discussion de chat, vraiment dans une jolie interface web. Et l'idée c'est qu'on peut créer des équipes dans lesquelles différentes personnes vont participer. Il va y avoir des canaux de discussion privé ou public en fonction de différents sujets. C'est très très pratique et beaucoup de gens l'utilisent par exemple dans l'organisation d'un projet. Dans le cadre de l'école, les étudiants, ils ont un projet dans une matière à faire, ils sont entre peut-être 4 et 15, et ils vont créer une équipe et puis ils vont pouvoir échanger à ce sujet-là sur notre outil. Et après sinon on redirige sur plein d'autres alternatives qui peuvent exister. On parle de Quant par exemple, une alternative à Google. On peut parler d'autres logiciels qui sont mis à disposition par d'autres gens de notre collectif ou même par d'autres entreprises qui sont plus respectueuses de la vie privée. Merci à vous.
Nous sommes à l'ESCOM où plusieurs expériences de physique et de chimie étaient proposées.
Sur Saint-Héloïse, étudiante en 4e année à l'ESCOM.
Alors vous présentez une expérience qui a pour nom les flammes colorées.
Oui, c'est utilisé surtout pour faire les feux d'artifice. Donc je vais vous mettre un petit peu d'alcool dans les barquettes. Pour avoir plusieurs colorants. Et donc, quand je vais allumer avec ma flamme, on va observer plusieurs couleurs de flamme. Donc, pour vous expliquer un petit peu, j'ai des barquettes avec de la poudre dedans. Mmh. Elle est différente pour chaque barquette. Ce sont des sels minéraux. Et en fait, quand je vais allumer ma flamme, je vais apporter de l'énergie à ma poudre, qui va donc passer d'un état fondamental à un état excité, puis redescendre d'un état fondamental. Et c'est à ce moment-là qu'on va émettre un photon d'une certaine longueur d'onde. Et donc, selon la longueur d'onde, on va avoir une couleur différente.
D'accord.
C'est comme ça qu'on fait les feux d'artifice avec plusieurs couleurs.
Par exemple, le vert, là, il était vert et là, il est devenu bleu, c'est ça ?
Oui, exactement. C'est selon ce composé, donc c'est celle de chlorure de cuivre qui devient bleu quand il va s'éteindre.
Le public est intéressé par cette expérience ?
Oui, très, parce que c'est très visuel et ça plaît beaucoup aux enfants.
Une exposition qui s'appelait l'UTC, fête les 80 ans du CNRS, était présentée à l'occasion des fêtes de la science.
Donc, Corentin Tulou, donc je suis en thèse à l'UTC, au laboratoire de mécanique Robert Val. Donc, je vais vous parler rapidement de l'exposition, puis principalement de notre stand qui est basé sur les matériaux composites. Donc, alors, cette exposition, donc, elle est faite pour donc, fêter les 80 ans du CNRS. Donc il y a 4 laboratoires à l'UTC qui travaillent en collaboration avec le CNRS. Donc un laboratoire de mécanique, Robert Val, 2 laboratoires de biologie, donc BMBI, biomécanique, bioingénierie, et le GEC, le génie enzymatique et cellulaire, et un laboratoire d'informatique robotique qui s'appelle Odiasic. Le thème en fait, de cette exposition, en fait, c'est de voir les 40 dernières années de recherche en collaboration avec le CNRS, et de se projeter ensuite 40 ans dans le futur, qu'est-ce qui va se passer en termes de recherche avec le CNRS, donc à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les matériaux composites, par exemple les rendre intelligents, communicants, et donc les optimiser toujours plus, améliorer les propriétés mécaniques de manière à aller toujours plus loin, à la fois donc dans l'optimisation des propriétés, des applications, mais aussi la thématique environnementale qui est de plus en plus présente à l'heure actuelle, puisqu'un matériau composite, c'est pas forcément toujours recyclable. Le laboratoire, donc dans notre équipe en particulier, on travaille également sur tout ce qui est résine biosourcée, fibres naturelles, de manière à devenir de plus en plus respectueux de l'environnement, tout en optimisant les matériaux composites.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc à l'Université Technologique de Compiègne et à l'ESCOM, École supérieure de chimie organique et minérale, pour assister à la 28e édition de la Fête de la Science.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.